RCF. On croit que l'on va faire un voyage, mais bientôt, c'est le voyage qui vous fait ou vous défait. Cette phrase de l'écrivain voyageur Nicolas Bouvier, vous avez eu le temps de la méditer, Christophe Touchard, bonjour. La méditer durant une année, en parcourant le monde, dans le Transsibérien, au Tibet, en Nouvelle-Zélande, sur l'île de Pâques ou encore en Patagonie. Mais vous avez peut-être eu encore plus le temps de méditer cette phrase en relisant votre voyage et en écrivant ce livre très personnel que vous venez de publier aux éditions Favre, Un alto pour passeport, une année autour du monde. Car en effet, c'est avec votre alto, une sorte de grand violon, que vous avez voyagé pour rencontrer les populations locales, mais aussi pour visiter une extraordinaire association qui est répandue à travers le monde, El Sistema, une association qui enseigne la musique à des jeunes défavorisés. Et vous les avez rencontrés tout au long de votre tour du monde. Alors Christophe Touchard, dans l'avant-propos de votre livre, vous écrivez « Il y a de multiples façons de voyager et autant de raisons de prendre la route. Je suis parti pour me confronter à mes doutes, me remettre d'une rupture et tenter de me retrouver. » Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel état d'esprit était le jeune ingénieur de 30 ans que vous étiez lorsque vous avez décidé de vous lancer dans ce tour du monde en solitaire pendant un an ?
Alors c'était une période un peu complexe de ma vie, beaucoup d'interrogations à cette époque-là. Alors je venais de rompre avec Sophie, donc qui a été ma compagne pendant une dizaine d'années. Et une rupture qui a été complexe forcément, on ne passe pas 10 ans de sa vie avec une personne sans que... Il ne se passe rien au moment de la rupture. Donc à la fois beaucoup de questions par rapport à cette rupture et puis aussi beaucoup de questions sur notre monde et le monde futur. Alors, entre autres avec les questions liées au changement de nos sociétés, questions environnementales.
À ce moment-là, vous étiez ingénieur.
Oui, tout à fait. À ce moment-là, j'étais ingénieur à la RATP, exactement. Et un métier que j'adorais. Et pourtant, toutes ces questions sont venues, alors qu'on pourrait se dire j'avais presque un mode de vie idéal dans notre société, un travail, j'étais en couple, tout était parfait. Et pourtant, tout a explosé peu avant 2018.
Donc, question de sens quand on arrive à la trentaine.
Hein, exactement, ça, question de sens au moment de la trentaine.
Et pourquoi vous pensiez que le voyage allait vous aider à mieux vous connaître ? Et à mieux résoudre quelque part ce questionnement existentiel.
Alors, j'en étais pas forcément conscient à ce moment-là. C'était plus une idée que j'avais en tête depuis des années, de me dire j'aimerais bien partir voyager. Et je l'avais jamais effectué parce que c'est toujours une question de temps ou de partir avec l'autre. Et ma compagne, à ce moment-là, avait pas forcément ce désir aussi de partir. Bien qu'elle me laissait toujours cette possibilité en me disant si t'as envie de partir pendant quelques mois, tu peux partir. Et j'osais pas le faire. C'est ce côté lien très fort.
Et là, vous avez osé. Et osé partir seul aussi.
Et osé partir seul, oui. Alors, ça n'a pas été évident non plus. J'étais un peu comme tétanisé au démarrage. J'étais vraiment dans un état d'esprit à ne plus pouvoir mettre un pas devant l'autre. Et à un moment, il y a eu cette révélation alors qui est venue au cours d'un voyage que j'ai fait en France. Et entre autres, je suis passé par le festival de jazz à Marciac. Et là, j'ai revu cette énergie des musiciens, ce côté voyage aussi en parcourant la France. Et je me suis dit, c'est à mon tour, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je parte.
Et la place de la musique dans la rencontre, parce que je dis, vous êtes parti seul, c'est pas vrai. Vous êtes parti avec votre alto.
Oui, exactement.
Alors alto, on explique pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un
oui,
violon.
Alors, un alto, c'est un violon un peu particulier, qui est un peu plus grand et un peu plus grave. Donc, ça se joue exactement comme le violon. Ça a quatre cordes, on a un archet qu'on vient frotter sur les cordes, mais il est un peu plus grand et puis un peu plus grave. Donc, c'est un instrument qu'on retrouve en orchestre. Alors, on ne le voit pas forcément, parce que comme il est assez similaire au violon, on ne voit pas forcément la différence. Mais si vous regardez un orchestre, en général, entre les pupitres de violon et de violoncelle, donc le gros instrument qui se joue entre les jambes, vous avez des altos.
Alors, vous n'êtes pas un altiste professionnel, mais vous êtes d'un bon niveau. Vous avez hésité à devenir
professionnel. Oui, exactement. Ça a été un choix au moment des 18 ans de me dire soit je pars dans une carrière d'altiste professionnel, soit je pars faire des études plutôt scientifiques. Et donc, finalement, le choix s'est porté vers les études scientifiques. C'était un choix pas forcément facile, mais je trouvais moins de plaisir dans la musique, dans la pratique de l'instrument à cette époque-là. Et je me disais que la musique doit quand même avant tout être un moment d'échange, de plaisir, de partage. Et comme j'avais plus cette notion de plaisir, je me suis dit que peut-être c'était plus sage de partir vers des études scientifiques.
Vous êtes parti avec votre alto, faire ce tour du monde. Vous dites d'ailleurs, c'est le titre de votre livre, « Un alto pour passeport ». C'est vraiment un passeport pour voyager, pour rencontrer les autres, que d'avoir son instrument avec soi à côté de son petit sac à dos.
Oui, ça, je ne pensais pas que ça serait aussi presque facile de rencontrer des gens avec l'instrument. Parce qu'il y a à la fois un côté curiosité naturelle. Hein, les gens se disent mais qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte
Déjà donc, même, avant que vous ne le preniez en main, les gens sont curieux.
Exactement, de voir cette boîte qui ressemble pas exactement à une boîte de guitare, pas une boîte de ukulélé, donc pas très courant. Et donc souvent, à ce moment-là, plutôt que d'expliquer, j'ai tendance à ouvrir la boîte et à jouer quelques notes de musique. Et donc là, les yeux sont émerveillés, donc ça crée tout de suite un contact. Et puis, pour aller dormir chez les gens, bah, c'est pareil, il y a un côté, je pense, qui peut-être rassure en disant bah, tiens, ce voyageur, il voyage pas forcément comme les autres voyageurs.
Et, bah, un ça musicien, serait... ça peut pas être méchant. Quoi.
Peut-être, voilà.
Ça rassure.
Ça rassure, je pense que ça rassure. Et donc, bah, les portes s'ouvrent et on se retrouve à dormir chez les gens. Et puis en plus, bah, c'est une manière de les remercier. Et donc, ça, c'est aussi assez chouette. Et donc, moi, ça a souvent été ma manière de dire merci de jouer un morceau de musique.
Alors Christophe Touchard, vous aviez au début de votre itinéraire un projet qui était celui de rencontrer des membres d'une association qui existe dans différents pays du monde. Cette association s'appelle El Sistema. Vous pouvez nous présenter cette association et puis nous dire quel était votre projet de départ quand vous êtes parti autour de cette association.
Tout à fait. Alors c'est une association qui est née dans les années 1970 au Venezuela, à une époque où il y avait quand même des écarts de richesse assez importants au sein de la population. Et donc il y a un chef d'orchestre qui s'appelle José Antonio Abreu, qui était également économiste et qui s'est dit on va essayer de tenter une autre approche pour aider les enfants des quartiers défavorisés. Et il a eu cette idée assez magique de se dire, bon, on va emmener la musique dans les écoles. Et donc, on va offrir à l'ensemble des élèves qui sont dans les écoles primaires et collèges la possibilité de pratiquer un instrument de musique.
C'est ça, pas seulement d'écouter la musique, mais de pratiquer la musique.
De pratiquer, exactement. Et donc, tout de suite, ils sont poussés, on leur donne un instrument, on les met dans un orchestre. Et c'est presque la pratique par l'apprentissage dans l'orchestre. Il n'y a pas forcément de cours individuels. Donc c'est tout de suite vous êtes poussé dans le bain et donc chacun joue avec son niveau et donc c'est assez marrant parce que vous retrouvez des orchestres avec des niveaux très divers. Donc il y a des musiciens de plusieurs années d'expérience qui vont jouer la partition en entier et puis ceux qui débutent vont jouer quelques notes mais sont quand même mêlés au sein de cet orchestre.
Et ça se retrouve dans différents pays du monde. C'est parti du Venezuela et cette idée s'est répandue dans
Exactement.
Le monde entier,
Tout
y compris dans des pays qui ne sont pas des pays en voie de développement.
Complètement.
Qui sont des pays riches. Vous avez voyagé en Nouvelle-Zélande, en Australie, on en parlera peut-être. Et là, vous avez trouvé des associations El Sistema.
Tout à fait. Oui. Donc au départ, c'est effectivement né en Amérique du Sud. Et puis, donc, ça a fait des émules. Alors, il y a un peu plus de 300 associations aujourd'hui qui ont repris le modèle d'El Sistema Venezuela. Donc elles sont toutes indépendantes, elles ont chacune leur méthodologie adaptée. Et effectivement, même les pays plus riches occidentaux que vous venez de citer ont repris ce modèle El Sistema.
Mais toujours en s'intéressant et en aidant des gens plutôt défavorisés.
Exactement.
C'est quand même l'objectif. Hein.
Tout à fait.
Quand vous étiez en Suède, vous avez rencontré... C'était plutôt des migrants à ce moment-là.
Exactement, donc ce sont souvent des migrants donc qui sont arrivés récemment en Suède. Et donc c'est une manière de les intégrer à la société. Et donc la Suède, je pense, en Europe, est un des programmes les plus développés. Et donc ils ont des milliers d'enfants qui participent à El Sistema.
Projet qui mériterait une émission à lui seul.
Complètement.
Mais donc vous êtes parti avec cette idée d'aller les rencontrer.
Oui.
Et de vous joindre à eux quelque part,
Joindre à eux et puis de les mettre en avant parce que ce sont des associations qui ne sont pas forcément très connues et je trouvais que le travail qui est fait par les bénévoles est absolument remarquable. Donc je n'avais pas la prétention de me dire je veux leur apporter quelque chose parce que les bénévoles sont des musiciens et ils sont déjà très bien formés, ils donnent suffisamment aux enfants. Donc c'était plus le côté de les rencontrer, d'échanger avec les enfants, de présenter aussi l'alto parce que c'est souvent un instrument qu'ils n'ont pas forcément ou qui n'est pas très connu. Et puis mettre en avant ce qu'ils font au travers de petits reportages vidéo. Donc j'ai fait des petits reportages vidéo de 5 minutes que j'ai publiés afin de mettre en valeur leur travail.
En même temps, c'était génial parce que ça vous permettait de rencontrer des hommes, des femmes, des enfants dans tous ces pays où se trouve cette association.
Oui, exactement. Et donc, ça a été aussi un lien pour moi avec des personnes qui vivaient dans les pays, une manière de m'imprégner de la culture locale.
Parce que l'objectif, vous le dites hein, dans votre livre, l'essence même du voyage, c'est la rencontre.
Complètement.
Tout ce que vous vouliez, c'était, ça on le comprend bien dans le livre, vous rencontrez vous-même, mais c'était aussi rencontrer les autres.
Oui, rencontrer les autres. Je trouve que la richesse, elle est vraiment là dans le voyage. C'est la rencontre de l'autre qui nous fait grandir, qui nous fait réfléchir et qui m'a beaucoup aidé. Alors à la fois les populations locales, mais également les voyageurs qu'on rencontre, parce que souvent les voyageurs sont sur la route pour une raison. Alors c'est assez marrant, il y a rarement des voyageurs qui partent juste pour le plaisir du voyage, ils ont souvent d'autres interrogations personnelles plus profondes. Et donc les rencontrer, échanger avec eux, c'est aussi source de grande richesse.
Il y a une quête en fait. Est-ce que les gens sont en quête à travers ces voyages? Quête d'eux-mêmes, quête de sens?
Je ne sais pas si la quête est consciente, mais en tout cas, oui, il y a une recherche, oui. Il y a quelque chose.
Et sur ce que vous, maintenant, relisez à votre tour de ce que vous avez vécu vous-même, vous l'avez dit, vous êtes parti parce que vous n'étiez pas bien, vous étiez très triste de cette séparation, puis la trentaine, qu'est-ce que je fais de ma vie, ce voyage qui était la réalisation d'un rêve, est-ce que ça s'est transformé quelque part en une sorte de quête initiatique?
Oui, il y a clairement un avant et après le voyage. C'est un moment assez clé dans ma vie, à la fois pour des questions de prise de conscience. On en parlera peut-être après, mais c'est vrai qu'il y a eu aussi des prises de conscience géopolitiques et environnementales qui sont venues au fur et à mesure du voyage. Donc au départ, j'étais plutôt sur un fil conducteur autour de la musique. Et puis finalement, j'ai découvert d'autres thématiques qui m'ont passionné. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai voulu, après mon retour en France, j'ai quitté entre autres la RATP, mon métier d'ingénieur, pour partir plutôt vers la transmission, parce que j'avais envie de transmettre.
Vous êtes formateur maintenant?
Voilà, exactement. Et donc, je fais de la formation et de l'enseignement. Et puis, j'ai monté aussi à côté un spectacle jeune public pour les 6-12 ans, où on emmène les enfants voyager au travers de la musique. Donc, c'était aussi une manière de transmettre d'autres cultures à ces jeunes enfants.
Visage, Thierry Lyonnais.
Alors Christophe Touchard, vous partez avec votre petit sac à dos, et je dis petit parce que c'est important, vous avez tout pesé, tout contrôlé, vous avez un petit sac à dos de 36 litres je crois, ce qu'il faut de la rando pour comprendre, et puis vous aviez 8 kilos sur le dos, vraiment minimalisme, hein. Vous parlez un peu de minimalisme. Quoi.
Oui, je parle de minimalisme.
Pourquoi c'est important de voyager comme ça, si léger?
Alors c'est extrêmement important d'abord pour des questions simplement morphologiques et donc je suis pas un gros gabarit. Hein.
Les auditeurs vous voient pas, vous êtes pas un grand costaud d'1m90 et 100
voilà,
kilos. Quoi. Plutôt mince.
Je suis un peu moins de 60 kilos. Voilà, donc effectivement on est limité en poids, hein, sinon on se retrouve vite à tirer une maison avec soi et donc on perd sa liberté. Donc c'était mon objectif, c'était d'être le plus libre possible dans mes mouvements et donc de pouvoir avoir mon sac à dos tout le temps sans devoir le mettre quelque part, le laisser.
Ah, mais il faut oser partir avec très peu de choses. Parce qu'on se dit toujours, mais je vais peut-être avoir besoin de ça, je vais peut-être manquer de ça. Et cette fameuse phrase, le poids c'est de la peur, ce que disent tous les randonneurs qui ont une expérience.
Effectivement. Alors, je crois que c'est aussi né d'expériences précédentes. J'avais entre autres parcouru les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle et donc j'avais déjà commencé une réflexion à me dire qu'est-ce qui est vraiment essentiel dans...
On s'allège vite hein, sur et, le chemin de Saint-Jacques.
Exactement, et surtout à marcher plusieurs heures par jour, on s'aperçoit rapidement que chaque gramme compte. Et donc effectivement, c'est une recherche du minimalisme à ce moment-là.
Et puis vous aviez votre alto à la main aussi.
Et en plus, j'avais mon alto que j'ai aussi optimisé.
Ah bon?
Et donc j'ai eu la chance effectivement, alors ne serait-ce que sur la boîte, une boîte ça pèse assez lourd.
Vous avez offert une boîte très légère.
Et donc on m'a offert une boîte très légère avant de partir.
Alors on le disait, l'essence même du voyage c'est la rencontre. Donc vous vouliez vraiment rencontrer des hommes et des femmes dans les différents pays où vous partiez. Et pour cela il y a la question du logement. C'est sûr que quand on va à l'hôtel on rencontre moins de monde. Vous avez fait le choix de ce qu'on appelle le couchsurfing.
Oui.
Vous pouvez nous expliquer ce que c'est?
Alors le couchsurfing c'est une plateforme qui met en rencontre des voyageurs. Donc des voyageurs soit qui sont sur la route et qui cherchent des logements, soit des voyageurs qui sont revenus chez eux et qui ont envie d'ouvrir leur maison pour accueillir des voyageurs. Donc ils mettent à disposition ce qu'ils ont. Ça peut être juste le canapé,
hein, le principe,
voilà,
c'est le canapé.
D'où le nom de couchsurfing. et sinon, ça peut être. Alors, j'ai parfois fait du couchsurfing de luxe. J'ai eu ma chambre, je me suis retrouvé à dormir en manière luxueuse. Et puis, d'autres fois, on va juste dormir sur un bout de canapé ou de bout de tapis. Mais c'est pas grave. L'objectif, on n'est pas là pour avoir un sommeil parfait, et encore même, ouais. On dort même très très
on
bien.
On cherche pas le luxe, mais on cherche de rencontrer les autres, parce que
rencontre.
Le but
exactement.
De ce couchsurfing, c'est un échange, c'est une rencontre. Oui, ceux qui vous accueillent ont envie de vous entendre, connaître vos aventures, c'est ça.
Exactement, donc c'est vraiment un partage, à la fois nous on va apporter, et puis eux apportent énormément aussi de par les échanges qu'on peut avoir.
Alors Christophe Touchard, on va quand même partir en voyage, parce que là on a parlé d'éléments qui, je dirais, situent un peu la manière dont vous avez voulu voyager, mais on va faire le tour du monde avec vous, vous l'avez fait pendant un an, on va prendre quelques minutes ensemble. Vous avez choisi, en tous les cas au début, de faire un long, long voyage en train, puisque vous êtes parti de la France et vous êtes arrivé jusqu'à Lhasa au Tibet, en passant par, bien sûr, la Mongolie et la Russie avec le Transsibérien.
Oui, tout à fait.
Un énorme voyage et par étapes, hein, vous avez pris votre temps, vous avez saucissonné ce long trajet.
Exactement. Je ne l'ai pas fait d'une traite. Alors, ça doit être faisable d'une traite, mais je pense qu'il doit falloir compter une quinzaine de jours et à la fin, on doit en avoir marre.
D'être enfermé dans le train.
D'être enfermé dans le train pendant 15 jours.
Les paysages défilés. Là, vous avez...
Et donc, j'ai effectivement saucissonné sur 3 mois et demi. Et donc, c'était un rêve. C'était un rêve de dire, mais j'ai envie de prendre un des plus longs chemins de fer au monde.
Pourquoi le train guider. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous attire dans le train?
Alors le train, c'est, je trouve, un très bon équilibre entre à la fois un peu plus de lenteur, parce que sinon, on a tendance à prendre l'avion, et donc c'est un moyen de transport, je trouve, très violent, qui nous parachute vraiment d'une culture à l'autre sans transition. Vous faites un Paris-Pékin, vous vous retrouvez en 12 heures au milieu d'une culture tout autre. Donc ça, je trouve ça très très violent, sans parler en plus des problèmes environnementale. Et je trouve que le train a ce côté-là d'être beaucoup plus doux et donc de nous amener de transition en transition de manière assez logique. Donc il y a un vrai plaisir.
Autre rapport au temps, hein. c'est
oui,
important
c'est ça. Un autre rapport au temps et tout en étant dans un confort aussi par rapport au bus, parce qu'on pourrait se dire une alternative pourrait être de prendre le bus ou le car. Et donc le train est quand même extrêmement confortable et en plus il offre ce qu'on adore tous, ce sont les rencontres. Je crois qu'on en a beaucoup parlé. Et le train, c'est un lieu de rencontre absolument magique.
Y compris dans le Transsibérien.
Y compris dans le Transsibérien. Alors, j'ai fait le choix de voyager en troisième classe. Donc, ce sont des wagons où vous avez une 60aine de lits. C'est pas vraiment cloisonné. Donc, tout le monde peut parler avec tout le monde. Et donc, là, vous rencontrez des gens. Alors, ils parlent pas forcément anglais. Je parle pas russe. Donc, les communications sont pas toujours évidentes. Mais néanmoins, on se comprend par les signes, le partage d'un peu de nourriture. Et puis, certains, parfois, vont parler anglais et donc vont faire le traducteur. Et donc, là, on a des échanges extraordinaires.
Est-ce que l'alto
et la musique aussi.
A eu sa place aussi dans le Transsibérien.
Dans le Transsibérien, entre autres avec des enfants donc, qui voyageaient dans le Transsibérien. Et donc, ça a été l'occasion de partager autour de la musique.
Et il devait être étonné, non, de vous trouver là, en troisième classe, avec eux, alors que ce n'est pas un plaisir pour eux de voyager
non,
dans le Transsibérien.
Non, pas du tout. Oui, ils me prenaient vraiment pour un fou. Parce que pour eux, le train est le moyen de transport pour aller de ville en ville favori. Et ils en ont marre, parce qu'ils prennent le train depuis qu'ils ont 2 ans, et de faire des dizaines d'heures de voyage pour aller visiter la famille dans une autre ville, c'est insupportable. Et donc ils se disent, mais moi si j'avais les moyens, j'aimerais plutôt prendre l'avion et aller de ville en ville d'une manière beaucoup plus rapide. Donc ils nous prennent un peu pour des fous, effectivement. Он актрису любил, ту, что любила цветы. Он тогда продал свой дом, продал картины и кровь, и на все деньги купил. Целое море цветов, миллиона, миллиона, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты, кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез. Свою жизнь для тебя превратит в цветы.
Alors, ce que j'ai bien aimé, Christophe Touchard, dans votre livre, c'est que vous partagez avec sincérité ce que vous avez découvert au cours de ces voyages, au cours de ces rencontres. Et parfois, j'ai trouvé que vous étiez en décalage avec ce qu'on peut lire d'autres récits de voyageurs. On va le voir au cours de ce périple, notamment tout à l'heure quand on parlera de la Nouvelle-Zélande. Mais là, par exemple, en Russie, vous nous montrez une autre Russie que, par exemple, celle de Sylvain Tesson. On sent que là-bas, la plupart des Russes sont des alcooliques.
Oui.
vous dites non. Les Russes ne sont pas tous des alcooliques.
Voire même très très peu. J'ai quasiment rencontré aucun Russe qui abusait. Alors, on a vraiment cette image, l'abus de la vodka, entre autres. Et j'en ai rencontré absolument aucun. Donc, est-ce que c'est un hasard? Je ne crois pas.
Parce que vous êtes arrêté, vous avez été dans les villes. Vous avez
je suis allé dans les villes, dans les villages. Oui, tout à fait, dans les familles. Et en particulier chez la jeune génération, aujourd'hui, la vodka ne fait plus du tout partie des boissons favorites, et c'est plutôt la bière, et on trouve vraiment un mode de vie très similaire à celui qu'on pourrait avoir en France.
Et vous avez aimé le peuple russe?
Oui, ce sont des personnes extrêmement accueillantes, alors qu'ils sont assez froids de prime abord, donc il y a un côté... Vraiment qui refroidit. On se dit qu'on n'a pas forcément envie d'aller discuter avec eux. En plus, ce sont souvent des grands gaillards, donc qui font peut-être presque un peu peur au démarrage, mais finalement qui ont un cœur en or. Et à chaque fois, j'ai été extrêmement bien accueilli. Dans toutes les familles où je suis allé, des personnes adorables.
Et c'est parce que vous étiez étranger ou parce que vous étiez avec votre alto? Et ça a ouvert les portes?
Je pense pas que l'alto ait joué particulièrement un plus. Alors, ça a joué un petit plus, bien évidemment, mais je crois que n'importe quel voyageur en Russie serait très, très bien accueilli. Et donc, ça fait partie vraiment de la culture russe, d'accueillir les gens, d'être bienveillant. Quand vous rentrez dans les maisons russes, moi, ce qui m'a souvent marqué, c'est aussi la propreté. Hein, c'est tout extrêmement propre, bien entretenu. On sent qu'il y a un vrai... goût pour l'intérieur, pour recevoir les personnes, et puis une gastronomie aussi qui est assez chouette.
Et alors, on parlait du transsibérien. Vous dites que les Russes sont très disciplinés.
Oui.
Ce qui n'est pas du tout le cas des Chinois, puisque vous allez voyager aussi longtemps dans des trains chinois. C'est intéressant, cette différence.
C'est une très, très grande différence culturelle.
Oui.
Effectivement, quand vous êtes dans le transsibérien, on se retrouve avec un mode de gestion des nuits, en particulier très strict. Donc, quand il est à peu près 22 heures, les lumières vont s'éteindre dans le wagon. Et là, naturellement, tout le monde part se coucher, fait plus de bruit. Et donc, c'est le silence absolu dans le train. On entend juste le cliquetis des roues sur les rails. Et là,
les gens respectent ce silence.
Et les gens respectent le. Donc, c'est un peuple extrêmement respectueux. Ça, c'est très, très, très discipliné, extrêmement agréable. Enfin, c'est vraiment des très beau moment dans ce train. Et c'est vrai, quand on arrive en Chine...
On poursuit le voyage avec ce transsibérien qui traverse non seulement la Russie, la Mongolie, mais aussi la Chine.
Mais la Chine, tout à fait.
Et alors, à ce moment-là, vous vous trouvez dans ce transsibérien chinois.
Et là, on a un changement complet de philosophie de vie.
C'est-à-dire
on se retrouve... Alors, les Chinois sont très bruyants, contrairement à ce qu'on pourrait penser, très indisciplinés. Donc, c'est assez marrant. On a souvent cette vision en Occident de la Chine très disciplinée qui suit les ordres. Et finalement, les Chinois, s'ils n'ont pas presque un policier derrière eux, ce sont des gens très indisciplinés. Donc, on se retrouve dans des wagons où on va fumer, on va parler fort, on va allumer la lumière, on va cracher aussi, parce que ça fait partie de la culture. Et malgré alors des interdictions, hein, il est interdit de fumer, il est interdit de cracher dans les wagons, on demande de faire du silence quand les lumières sont éteintes. Et donc, s'il n'y a pas le chef de bord qui passe pour mettre un peu d'ordre, 5 minutes après, c'est reparti.
Christophe Touchard, on va continuer ce tour du monde en votre compagnie autour de ce livre que vous publiez, Un alto pour passeport, une année autour du monde. Vous avez cherché à connaître le monde, mais aussi à vous connaître. Après la Russie, vous êtes arrivé en Mongolie. Et là aussi, ça a été un peu un choc quand même. Hein. Vous parlez de la mondialisation qui se développe partout sur la planète. Là, on s'imagine les Mongols sur leur cheval, dans la plaine, vivant sous la yourte de manière très, très traditionnelle. Vous arrivez à Ulaanbaatar, la capitale. C'est pas vraiment ça.
C'est pas du tout ça, oui. Ulaanbaatar a beaucoup, beaucoup changé et a un rythme effrénant. Donc, quand on discute avec... J'ai entre autres rencontré un Français qui a implanté en Mongolie depuis une vingtaine d'années et qui a presque ahuri par la vitesse à laquelle change Ulaanbaatar. Donc c'est des gratte-ciels qui se construisent un peu partout. La société alors à la fois occidentale qui débarque avec les chaînes de restauration états-uniennes, mais également la civilisation plutôt asiatique, alors chinoise je dirais aussi, hein, qui investit beaucoup en Mongolie. Et donc vous vous retrouvez avec une ville qui était traditionnellement centrée autour du palais impérial, avec des yourtes. Et puis bah, aujourd'hui, il y a quelques yourtes qui sont, enfin, je disais quelques, mais beaucoup plus quand même. Il y a pas mal de yourtes qui sont autour de la ville, donc ce sont plutôt
des... les quartiers pauvres.
Dans les quartiers pauvres, exactement. Donc des nomades qui viennent avec leur yourte en espérant avoir une vie plus facile dans la capitale.
Parce que la vie est dure dans les plaines, il faut quand même le dire.
La vie est extrêmement dure.
Vous avez observé les effets du réchauffement climatique aussi.
Et en particulier, oui, tout à fait. La vie en Mongolie est extrêmement dure. Donc c'est des peuples nomades qui vivent principalement d'élevage, de bétail. Et aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, il y a de moins en moins d'herbes dans les steppes mongoles. Et donc, c'est de plus en plus difficile pour eux de survivre.
Vous parlez du désert de Gobi qui s'étend,
oui,
des plaines qui s'assèchent. Vous l'avez observé ou vous en avez parlé avec les populations locales qui vous l'ont confirmé?
Non, c'est vraiment les populations locales qui le confirment, parce qu'on n'a pas possibilité sur ce genre de phénomène. Ce sont des phénomènes long terme, donc c'est très difficile de les observer en quelques semaines ou quelques mois. Mais par contre, en échangeant avec les locaux, effectivement, ils expliquent qu'ils n'ont pas eu une seule goutte de pluie depuis un an, ce qui n'est pas du tout la normale en Mongolie, même si c'est un climat plutôt sec. Et puis après, quand on va sur d'autres... on parlera peut-être du Tibet après, mais quand on se retrouve au Tibet ou dans des endroits où il y a beaucoup de glaciers, là, on voit les retraits, par contre. Là, c'est visible. On nous dit il y a quelques années, le glacier se trouvait à ce niveau et aujourd'hui, il est 2, 3, 4, 5 kilomètres plus loin.
Ça a été, je dirais, une prise de conscience très forte chez vous, parce que vous êtes à la fois musicien, mais vous êtes aussi ingénieur. Et on le sent bien dans votre livre, tout au cours de ce voyage, que ce soit en Asie, mais que ce soit aussi en Patagonie, on parlera peut-être. On n'aura pas le temps de parler de tous les pays, mais bon, vous avez pris conscience de cette crise climatique que nous traversons. Et les conséquences sur les populations locales.
Et ça a été un choc. Je crois que j'ai peut-être même écrit une claque. Je ne sais plus exactement ce que j'ai mis comme mot, mais ça a été en tout cas très violent. Et je pensais effectivement pas vivre ce changement climatique. Ce n'était pas non plus un des objectifs initials du voyage. Et finalement, en fin de parcours, c'est devenu un des éléments les plus essentiels de ce que j'ai appris dans ce voyage. Et de me dire finalement, le monde change très rapidement. Et en particulier dans les milieux fragiles. Et donc c'est ça qui est très inquiétant. Et donc milieux fragiles, c'est les déserts, les steppes. Alors les steppes, on a aussi en Patagonie argentine, il y a des grandes steppes. Et même problématique, il ne pleut plus, il n'y a plus d'herbe. Les fermes de moutons ferment les unes après les autres. Donc ça, c'est très violent.
Aussi, vous l'avez vu au Tibet, vous l'avez vu au Népal.
Au Népal, en Australie aussi, sur la Grande Barrière de Corail. Donc c'est universel et c'est très très rapide comme changement.
Et la mondialisation, parce que aussi quand on voyage, on a plein d'images en tête, on a plein de rêves sur ces pays qui vivent un mode de vie traditionnel. Et puis on voyage à travers le monde et là on voit ce que vous appelez l'uniformisation de la mondialisation.
Complètement, oui. C'est un phénomène qui est pas nouveau,
qui s'accélère,
mais qui pas assez de recul, je pense, encore pour juger est-ce qu'il s'accélère ou pas. Mais il est vrai que vous allez un peu partout dans le monde aujourd'hui, et entre autres en Asie, une ville asiatique ressemble à une autre ville asiatique. C'est la même typologie d'immeubles, de béton, les mêmes modes de vie. Et donc il y a clairement une uniformisation aujourd'hui des cultures dans le monde.
Et ça a été dur pour le jeune voyageur que vous êtes de prendre conscience de cela?
Il y a, particulièrement en Mongolie, je crois que c'est là où j'ai vécu des modes de vie qui sont encore très traditionnels, et donc qui sont extrêmement plaisants parce que ça nous confronte à d'autres façons de voir les choses, d'autres modes de penser, et malheureusement c'est des modes de vie qui sont absorbés par ce qu'on disait, ce qui se passe à Ulaanbaatar. Et donc je trouve ça un petit peu dommage parce qu'on est en train de perdre une richesse culturelle. Et malheureusement, je crois qu'on l'aura bientôt plus que dans les musées. Or, c'est peut-être cette richesse culturelle qui pourrait nous aider à traverser les défis actuels.
Visage RCF.
Christophe Touchard, on a rapidement évoqué la Chine et l'indiscipline des Chinois. C'est vrai que c'est intéressant de mesurer à quel point ils sont individualistes. On parle toujours du communisme chinois. Et en fait, ils sont très, très individualistes, très râleurs.
Oui, surtout dans les grandes villes. On le retrouve beaucoup moins à la campagne. Je pense qu'à la campagne, c'était très difficile pour moi de l'analyser et d'essayer de le comprendre. Surtout quand on a un prisme de vision occidentale et de comprendre une culture asiatique, c'est quasiment impossible.
Mais vous avez été accompagné par votre belle-sœur qui est chinoise.
Oui, exactement. Et ça, c'est une très grande chance. Alors, on ne se comprend pas toujours, justement, c'est ça qui est intéressant, mais on peut avoir des discours sur des questions. Alors, il y a aussi les questions de contrôle. En Chine qui sont extrêmement fortes.
Ça vous a choqué, ça. Et ce contrôle omniprésent.
Oui. Contrôle omniprésent m'a pesé énormément, et à tel point que quand je suis rentré au Népal, ça a été une bouffée d'oxygène. Et donc vous avez des contrôles effectivement un peu partout, d'identité, y compris pour des activités qui nous paraissent complètement anodines en France. Aller visiter un musée, on contrôle votre identité. Donc ça, c'est très très surprenant.
Vous dites, il m'aura fallu des mois pour digérer le mal-être que j'ai pu éprouver en Chine.
Oui.
Comment vous le définiriez, ce mal-être du voyageur qui vient pour vraiment rencontrer la population, prendre son temps, essayer de comprendre? Comment vous pourriez définir ce mal-être?
Je l'ai senti comme un frein à chacune de mes étapes. Plutôt que d'être dans une liberté que je recherchais, une liberté du voyage et d'être guidé par... des sensations, me dire, bah tiens, je sens qu'il y a quelque chose à aller creuser par là, j'y vais. À chaque fois, j'ai eu l'impression d'être bridé et de me dire, j'ai envie d'aller, je vous cite un exemple très très bête, mais j'ai envie d'aller voir la Cité Interdite. Bah, acheter son billet pour la Cité Interdite, c'est quasiment impossible sans passer par un tour opérateur ou avoir un compte bancaire chinois. Et donc, à chaque fois, ça a été des barrières à ma découverte de ce pays que j'ai vécu de manière très violente.
Ce qui est impressionnant, vous le dites, c'est le renforcement des contrôles par la technologie.
Oui, ça c'est...
Des
caméras partout.
Le système de notation individuelle, c'est une réalité, ça, en Chine?
Ça, c'est une réalité et donc qui est rendue possible par les contrôles, entre autres pour prendre les transports. Et donc, c'est assez facile derrière de limiter une personne dans ses déplacements en
donc,
lui interdisant de prendre le train.
Donc, si cette personne a commis quelques actes, entre guillemets, délictueux, elle est notée. Et elle est repérée et elle ne peut plus, par exemple, se déplacer.
Exactement,
elle
ne peut plus se déplacer
ou
rentrer dans tel musée. Exactement, voilà, c'est la réalité aujourd'hui.
Et comment les Chinois le vivent, cela?
C'est, je crois, l'élément le plus déstabilisant pour moi, c'est qu'ils le vivent sans grande interrogation. Ça leur paraît presque évident, en tout cas, c'est dans la perception que j'ai eue. Je les voyais, en rentrant sur la place Tiananmen, par exemple, vous devez contrôler aujourd'hui votre identité. Ce qui m'a surpris, en plus, parce que j'avais eu l'occasion d'y aller 14 ans auparavant, il n'y avait pas du tout ce mécanisme de contrôle.
Et vous avez pu comparer, hein?
Voilà, et donc là, j'ai pu comparer en 14 ans, et ça a changé à une vitesse ahurissante. Et donc, vous avez effectivement c'est qu'eux qui se forment devant les portiques de contrôle et chacun vient badger sa carte d'identité qui lui autorise ou non l'entrée sur la place. Et ils le font de manière, pour le coup je disais qu'ils sont indisciplinés, mais là ces contrôles-là ils le font de manière très disciplinée et ils n'ont pas l'impression que pour eux c'est une entrave à leur liberté.
Donc... Alors comment comprendre qu'ils sont indisciplinés, individualistes et en même temps ils acceptent ce manque de liberté?
C'est une question très complexe à... J'ai essayé de l'analyser au travers des valeurs. Et donc, entre autres, j'ai fait référence dans le livre la théorie des valeurs de Shalom Swartz, en disant que finalement, chez les peuples asiatiques, il y a une valeur de la sécurité, en particulier, qui est dominante. Et donc, ils sont prêts à accepter ces contrôles-là sous le couvert de vivre dans un pays plus sûr.
Et qui va les nourrir?
Et qui va les nourrir.
Je crois qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a encore 60-70 ans, la faim était présente
complètement,
en Chine.
La famine. Et puis c'est un pays aujourd'hui qui
sont très heureux d'être dans une forme de développement.
Complètement. Et qui ne sont pas en plus, je crois, autonomes alimentairement, donc dépendent aussi des importations. Enfin, oui, tout à fait.
Vous avez eu un autre choc aussi, c'est le décalage culturel. Quand vous avez vous avez écouté et vu un opéra chinois. C'est intéressant dans votre livre, vous qui êtes aussi musicien, musicien dans l'âme, vous alliez dès que possible assister à des concerts, que ce soit en Russie, que ce soit en Chine, que ce soit à l'Opéra de Sydney, dont l'acoustique est mauvaise, on le dit, l'architecture est superbe, mais l'acoustique est mauvaise. Et là, vous avez vécu un choc en écoutant la musique chinoise. Vous pouvez essayer de nous aider à comprendre ce qui s'est passé en vous, musicien, qui assiste à cet opéra chinois et qui, visiblement, a du mal à y entrer.
Complètement. Ça a été une surprise. J'étais extrêmement excité d'aller à cet opéra chinois. Et donc, ça a été un grand plaisir au démarrage. Et puis finalement, très 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 rapidement, j'ai complètement décroché de la pièce. J'arrivais pas du tout à suivre. Alors j'étais quand même accompagné de ma belle-sœur qui faisait la traduction de ce qui se passait sur scène. Donc j'avais en plus cet avantage-là de pouvoir comprendre les faits qui se passaient sur scène. Et pourtant, ni la musique, ni les jeux des acteurs ne m'emballaient. J'étais quand même fermé à ce qui se passait devant moi. Et pourtant, j'avais envie d'être ouvert à ce qui se passait devant moi. Et donc là, ça a été une prise de conscience aussi de me dire que finalement, une culture, c'est très difficile à appréhender simplement en quelques semaines. Particulièrement une culture asiatique qui est très éloignée de la culture occidentale.
Et y compris la musique.
Parce qu'on pourrait dire, la musique, tout
mais
à fait.
Quand on est musicien, il y a une communion universelle autour de la musique.
Et effectivement, on pourrait se dire ça. On dit souvent la musique est un langage universel. Et je crois que j'ai un peu déconstruit cette pensée que la musique est un langage universel. Donc, je l'ai déconstruit à la fois en Chine. Donc, effectivement, parce que j'arrivais moi-même en étant musicien, j'arrivais pas à rentrer dans la culture musicale. Et donc, je pense qu'il me faudrait des années de pratique. Alors, j'ai souvent fait le parallèle avec ce que j'avais vécu aussi en France avec la culture de l'opéra et du ballet qui est assez complexe à appréhender. Hein. J'ai aussi mis des années à l'appréhender, mais j'étais déjà dans la culture française. Mmh. Et j'ai revécu ça un peu plus tard en Thaïlande, où, alors là, c'est l'inverse. C'était des Thaïlandais qui jouaient de la musique occidentale.
On est encore avec l'association El Sistema.
Encore, tout à fait.
Vous avez donné une masterclass à Chiang Rai, au Nord.
Exactement.
Et là, racontez-nous.
Et la grande surprise, je me demandais ce que je pouvais leur apporter. Donc, j'ai eu cette question au démarrage, donc je les ai écoutés jouer.
Et jouer de la musique classique.
Et jouer de la musique classique, ils jouaient un thème de Beethoven. Et au moment où je les écoute, je me dis, c'est étonnant, il n'y a pas de jeu sur les nuances, tout est à mon sens, en tout cas, comme je le percevais, assez plat. Et donc je me suis dit, s'il y a quelque chose que je peux leur apporter, c'est peut-être essayer de les amener vers une interprétation de ce thème de Beethoven en travaillant sur les nuances. Et en fait, je me suis heurté à une énorme difficulté à essayer de leur amener ce travail sur les nuances. Donc j'ai passé une heure avec eux sans réel succès. Et donc à la fin, j'ai échangé avec la personne qui gère ce programme en Thaïlande et qui m'explique de manière assez naturelle que même pour lui, qui a fait des années et des années de pratique de musique classique occidentale, il a toujours du mal à percevoir la manière dont a été pensé un thème écrit par un compositeur comme Beethoven. Et donc pour lui, il va finalement puiser dans ce qu'il connaît, donc dans ses racines thaïlandaises, et donc dans la musique thaïlandaise qui est très rythmique et plus, je dirais, plate, mais c'est pas de notion de jugement derrière, c'est en termes de nuances, c'est souvent assez plat. Et donc il vient puiser dans sa culture thaïlandaise pour derrière interpréter le thème de Beethoven. Et donc finalement, il fait une interprétation qui, moi, me paraît peut-être pas conforme à ce qu'on pourrait attendre en Occident, mais qui finalement est conforme à sa culture.
Alors Christophe Touchard, comment comprendre, alors je ne vais pas vous demander une théorie là-dessus, mais que des musiciens chinois, coréens, japonais sont aujourd'hui parmi les meilleurs, grands interprètes de musique classique?
C'est une très bonne question. Je n'ai pas forcément de réponse. Alors après, ils sont quand même formés, certains ont été formés par des très grands musiciens occidentaux qui ont eu l'opportunité de partir en Asie et de les former. Et puis souvent aussi, alors je pense par exemple, je pense à Lang Lang qui me vient en tête. Lang Lang vit en France aujourd'hui. Et donc, c'est emprunt, j'imagine, de culture occidentale. Donc peut-être qu'il a nourri son jeu aussi de ses voyages et de sa vie aujourd'hui en France.
Thank you.
Christophe Touchard, avec votre alto, vous avez joué, mais dans des lieux improbables, incroyables. Alors moi, j'invite nos auditeurs à, dans votre livre, prendre le flash code pour aller voir une vidéo, mais on peut aussi la trouver en tapant sur YouTube, « Back Around the World », Back le musicien, « Around the World », autour du monde. Et là, vous avez joué la première suite pour violoncelle seule de Bach.
Tout à fait.
Allez, dites-nous, énumérez-nous quelques lieux où vous avez joué.
Quelques lieux,
alors. On vous voit, parce que c'est vraiment une succession.
Oui, exactement.
On entend la première suite pour violoncelle de Bach que vous jouez à l'alto.
Oui.
Mais on vous voit dans différents lieux. Incroyables.
Tout à fait.
Alors, énumérez-nous quelques
lieux.
Alors,
ça a commencé vraiment, ce projet a commencé par hasard. C'est une Russe qui m'a poussé à jouer. On était devant une mosquée et elle me dit « Mais tu devrais jouer de l'alto là, je te filme. » Et donc, ça a commencé comme ça. Et puis, finalement, je me suis pris au jeu.
15 ans,
et...
je crois.
Exactement. Et puis, je me suis pris au jeu. Et donc, après, j'ai rejoué devant le lac Baïkal. J'ai rejoué au milieu des steppes en Mongolie. J'ai joué au Tibet. J'ai joué dans Patagonie. Donc, il y a tous ces lieux où je me suis filmé. J'en ai fait ce montage. Et donc, je ne sais plus exactement combien de lieux. Il y a peut-être une vingtaine ou une trentaine de lieux dans lesquels j'ai joué. Donc, vous voyez cette succession en 3 minutes 30 des lieux que j'ai parcourus.
Et qu'est-ce qui vous faisait sortir votre alto à cet endroit-là ? Parce que parfois, bon, c'était des bâtiments très connus, mais ce n'était pas vraiment ça. C'était plutôt parfois des paysages incroyables.
Des paysages, oui, souvent des paysages. Je repense au Tibet, ça a été ce choix-là.
Camp de base de l'Everest, côté chinois.
Camp de base de l'Everest, côté chinois. Alors, on me pose des fois la question de me dire, mais comment tu as pu aller avec ton alto au camp de base de l'Everest, côté chinois ? Alors, je vais casser un peu le mythe, mais il y a une route qui permet d'y aller en voiture.
Et qui vous emmène jusqu'à presque 6000 mètres.
Exactement. Et donc ça, c'est le côté ouvrage d'art chinois complètement démesuré. Donc vous pouvez aller très, très facilement au camp de base de l'Everest.
Par contre, côté népalais, il faut marcher.
Côté népalais, il faut marcher, oui. Là, c'est pas le...
pas la même chose.
C'est pas la même chose. Donc ça a souvent été des choix, voilà, par des paysages. Je repense aussi au... à l'île de Pâques. C'était un rêve d'enfant aussi de voir les Moai de l'île de Pâques. Et donc là, forcément...
Les Moai sont les grandes statues, mais on en reparlera
oui,
peut-être tout à
l'heure. Oui, et donc là, ça a été ce moment où je me suis dit, il faut que je sorte mon alto, je ne peux pas faire autrement. Alors bien sûr, j'ai demandé l'autorisation, parce que ce sont des lieux sacrés. Donc j'ai demandé l'autorisation, est-ce que oui, vous m'autorisez ? Donc j'ai eu l'autorisation et j'ai joué devant ces Moai.
Et alors, on le voit, à la fin de cette vidéo, vous avez laissé des moments où vous avez terminé de jouer ce morceau de Bach. Et là... les gens dans la rue vous applaudissent.
Oui.
Et notamment, je vois au Népal, je crois que c'était à Bhaktapur,
Cité
royale, à côté de Katmandou. Vous avez joué sur les marches d'un temple. Et là, les enfants vous ont applaudi. Et puis, ils viennent autour de vous. Et ça, c'était la réaction des gens qui vous voyaient jouer dans la rue.
Complètement. C'est souvent des moments improvisés. Je me dis, tiens, devant ce temple, j'ai envie de jouer, je l'aime bien. Et donc, je me mets à jouer. Et là, il y a un groupe de jeunes qui est passé. Et souvent, ce que je fais dans ce cas-là, je leur dis, mais est-ce que vous avez envie d'essayer l'instrument ? Et partout dans le monde, et ça, c'est vraiment exceptionnel, partout dans le monde, vous avez ces enfants qui accourent pour essayer l'instrument. Et donc ça, c'est une constante universelle, cette curiosité des enfants. Et ça fait extrêmement chaud au cœur. Donc à chaque fois, ces enfants sont venus essayer l'instrument.
Et alors, est-ce que ça vous a permis, Christophe Touchard, de rencontrer d'autres musiciens ?
Oui, j'ai rencontré d'autres musiciens.
La grande famille des musiciens à travers le monde.
Exactement, j'ai rencontré plein de musiciens.
En dehors de l'association, bien sûr.
En dehors de l'association, oui. Et donc, je repense par exemple au Chili. Donc, j'étais au bout du monde, dans une ville qui s'appelle Puerto Williams. Donc, encore un peu plus au sud de Ushuaia, pour ceux qui... voudrait visualiser sur...
la pointe de ce qu'on appelle la terre de feu,
exactement.
La Patagonie.
Et là, c'est des paysages déjà qui sont somptueux au milieu de fjords. Et donc, dans une petite maison, j'ai rencontré un poète chilien qui était aussi guitariste. Et donc, naturellement, on s'est mis à jouer au bout du monde. Et donc, ça a été un moment magique où j'ai retrouvé le plaisir de jouer de la musique avec d'autres dans un lieu en plus empreint de poésie. Donc, c'est un moment hors du temps.
Alors Christophe Touchard, on parle de moments hors du temps où la musique tient toute sa place. On va pénétrer en Océanie maintenant. Et il y a eu un endroit à Tahiti où vous avez vécu une soirée comme ça aussi.
Tout à fait. Hors du temps,
parce qu'on sait combien pour les Tahitiens, la musique tient une grande place. Vous avez vécu un beau moment aussi avec des Tahitiens grâce à la musique.
J'ai eu énormément de chance. Alors là, c'est encore une fois mon alto qui m'a ouvert les portes. J'ai rencontré, donc via Couchsurfing, une Tahitienne qui m'a dit « Mais viens dormir à la maison, ça a l'air absolument génial ce que tu fais ». Et cette Tahitienne m'a invité à une bringue polynésienne.
Et c'est le mot, hein, bringue. On appelle ça à Tahiti
une bringue, une soirée. Et donc, dans mon imaginaire, je me disais, bon, on va aller à une soirée autour de musique enregistrée. On va s'amuser, discuter, boire, manger. Et pas du tout. Pas du tout. Une bringue en Polynésie, c'est un moment exceptionnel. Vous avez à la fois effectivement donc à manger et à boire, mais également des musiciens qui viennent avec leur ukulélé et qui animent la soirée.
Un ukulélé, oui, c'est une toute petite guitare.
Toute petite guitare, très répandue en Polynésie, qui est un tout petit peu différente en Polynésie française que celle qu'on pourrait retrouver par exemple à Hawaï. Elle a un son un petit peu plus métallique, mais globalement c'est la même chose. Et donc là, vous avez ces musiciens qui se mettent à jouer, qui chantent et qui anime la soirée. Et la soirée, quand on pense à une soirée en France, c'est quelques heures. Chez eux, ça peut être des jours. Et donc, ils vont se relayer de manière ininterrompue. Quand il y en a qui en ont marre, ils vont se poser, ils passent le ukulélé à quelqu'un d'autre. Et donc, vous vous retrouvez pendant des heures à entendre cette musique et à jouer.
Mais donc, vous, avec votre alto classique, comment vous êtes intégré à ça?
Eh bien, figurez-vous que je n'avais pas mon alto à ce moment-là. Ça a été le regret. Et quand on a su que je jouais de la musique, on m'a donné un ukulélé et on m'a dit « Vas-y, joins-toi au groupe ». Donc on m'a appris quelques accords et j'ai commencé à jouer avec eux pendant des heures. Et ça a été un moment, on parlait de hors du temps, exactement hors du temps, qui m'a fait un plaisir fou et qui m'a aussi donné envie de continuer à aller dans cette culture polynésienne. Donc je pense qu'un jour, si je m'installe en Polynésie, je crois que je pratiquerai le ukulélé pour vivre cette culture.
Vous avez beaucoup, beaucoup aimé la Polynésie française? C'est intéressant là aussi parce qu'on a des avis partagés sur la Polynésie française. Certains vous disent mais c'est une sorte de paradis artificiel, d'autres vous disent c'est magnifique, c'est absolument extraordinaire. Vous avez aimé. Vous avez aimé surtout les hommes et les femmes de Polynésie. Oui. Il y avait Valentine qui vous a accueilli pour le couchsurfing. Oui. Et là vous dites elle m'a aidé à poser une réflexion sur le concept de nationalité.
Oui,
hein, Valentine. Donc, parce qu'alors elle, c'était un mélange de toutes les cultures, de
complètement.
Beaucoup de races différentes.
Donc effectivement, donc c'est elle qui m'a proposé de m'accueillir sur Couchsurfing. Et donc elle est haïtienne, mais également donc d'origine chinoise. Elle a également la nationalité
américaine.
Oui, exactement. Et elle a vécu en France, en métropole, et donc bien évidemment, elle a aussi la nationalité française. Donc c'est un mix culturel. Et donc quand je lui ai posé la question, tu te sens de quelle nationalité? Et ça a été très compliqué pour elle de répondre. Et finalement, sa réponse dépend des lieux géographiques où elle se trouve. Donc, elle m'expliquait que si elle est en Polynésie française, elle se sent plutôt chinoise parce qu'elle a grandi dans la communauté chinoise. Quand elle vient en métropole, ses racines, c'est la Polynésie française. Donc, elle va pas dire « je suis française », elle va dire « je suis une Tahitienne », exactement. Et puis, quand elle va voyager à l'étranger, elle va dire qu'elle est française. Donc, c'est assez marrant. Et son côté États-Unis, ne vient pas du tout. C'est pas forcément, même si elle a fait une partie de ses études aussi aux États-Unis.
Et ça, c'est une réalité aussi qu'on voit de plus en plus dans le monde.
Et ça, tout à fait.
Quand on voyage, ouais. Des hommes et des femmes qui viennent de différents pays, habités
par différentes cultures,
qui se mélangent, qui bougent. Se mélangent. La mondialisation. Un autre aspect de la mondialisation. Oui. Mais par contre, en Polynésie, vous avez beaucoup aimé son compagnon, qui lui est vraiment, on va dire, entre guillemets, pur tahitien. Mm. Et là, rencontre intéressante, parce que cet homme vous a fait découvrir un aspect important que vous cherchiez peut-être dans votre voyage, c'est comment vivre l'instant présent.
Oui.
Vous le dites dans votre livre.
Oui.
Il a été un peu un maître pour vous dire, vis l'instant présent. Ne te
préoccupe
pas toujours de l'avenir.
Oui. Tahiti a été ce moment de bascule où au début du voyage, j'étais encore rattaché à ma vie du passé. Et donc, je ressassais encore un peu les éléments du passé.
Et les blessures du passé.
Et les blessures du passé, oui.
Séparation, ouais.
Tout à fait. Et là, à ce moment-là, il y a eu vraiment une bascule où j'ai commencé à vivre dans l'instant présent. Et donc, il m'a beaucoup parlé de la culture polynésienne, qu'on connaît très très peu, en tout cas moi je la connaissais extrêmement peu, et d'un contact très très proche avec la nature. Donc les Polynésiens sont extrêmement proches de la nature.
Et notamment de la mer.
Et de la mer, oui, tout à fait.
Des navigateurs incroyables.
Oui. Et avec des capacités de navigation qui émanent uniquement de leur sens humain, donc sans instruments modernes, sans GPS, sans rien
et
du tout.
Quand vous dites sens, c'est vraiment les cinq sens. Hein.
Et c'est uniquement les cinq sens.
L'odorat, par exemple, vous le dites.
Oui.
Ils sont capables de sentir une île
Exactement, à plusieurs jours de navigation.
C'est incroyable. Ouais.
C'est, donc, ils essayent aujourd'hui de retrouver cette culture qui a été un peu perdue. Et donc, entre Polynésiens, ils se font des challenges à vivre dans la nature, essayer de naviguer d'île en île sans instrument. Et donc, ils sont en train de recréer l'ensemble de cette culture polynésienne qui s'était malheureusement un peu perdue au cours des dizaines des dernières années.
Et c'est vraiment une tendance aujourd'hui en Polynésie, et même chose aux îles Marquises, où les Marquisiens sont en train de développer leur identité marquisienne. VTA, puisqu'il s'appelait comme ça, hein, vous a apporté quelque chose. Et en relisant ce voyage pour écrire ce livre, vous avez vraiment vu des moments clés de rencontres ou de situations qui vous ont changé en profondeur.
Oui.
Il y a cette rencontre-là, ça se voit bien dans le livre. Pourrais-je m'en citer une autre ?
Il y en a, alors j'en vois deux autres. Il y en a une qui était au tout début du voyage, une soirée très dure. Et le lendemain, je me suis réveillé en me disant, mais finalement, j'étais beaucoup plus positif. Et donc, je me suis dit, le sommeil, c'est extrêmement important. Et donc, quand je vais pas bien, il faut pas trop chercher à comprendre et simplement l'accepter et se dire, dans ce cas-là, il faut que je dorme. Et puis, le deuxième gros moment de bascule au début du voyage aussi a été sur le lac Baïkal. Et donc, sur le lac Baïkal, je me revois assis sur une plage de sable blanc. Alors, c'est presque paradisiaque. On a l'impression d'être en Polynésie, sur le lac Baïkal. Et là, un gros moment de déprime. Je me demandais pourquoi j'avais passé ces années avec Sophie, pourquoi tout était s'était arrêté. Et puis, je ne l'ai pas trop compris, je suis allé me coucher. Et le lendemain, j'avais presque accepté cet état. Et donc, ça a été le signe de vrai départ du voyage. Je crois que le voyage a commencé réellement sur le lac Baïkal.
Et le fait de voyager seul, cette solitude dans le voyage, parce qu'on a parlé de rencontres, et c'est vrai que le voyage, en tous les cas, tel que vous le vivez, est très marqué par des rencontres. Mais il y a aussi cette part de solitude, cette part d'être loin et d'être parti longtemps, parce que vous, c'est pas un petit voyage de 15 jours, c'était une année sur la route. Comment on vit cette solitude, ou du moins, comment l'avez-vous vécu?
Très difficilement au démarrage. C'est presque une idée de folie qui vous traverse la tête. Vous vous dites, mais pourquoi est-ce que vous partez? Pourquoi est-ce que vous vous coupez de vos amis, de vos racines, de votre famille?
Vous n'êtes pas un solitaire dans l'âme, vous?
Non.
Vous avez découvert que vous étiez finalement un solitaire.
En partie, alors, j'aime bien un auteur qui s'appelle Jean-Paul Kaufmann, et qui, dans La Maison du Retour, a écrit, alors je saurais pas vraiment retrouver ces mots, à brûle-pourpoint comme ça, mais il explique que quand il est dans sa maison, il aime bien entendre l'agitation de ses amis ou de sa famille autour de la maison, tout en étant dans sa solitude, dans une pièce, en train d'écrire, par exemple. Et je crois que c'est un peu ça qui me caractérise, c'est que, à la fois, je suis un être très social et j'ai besoin d'aller voir les gens, j'ai besoin de discuter, d'être avec eux. Et d'autres moments, j'ai besoin d'être dans ma solitude. Et donc, ce voyage, c'était aussi une recherche de solitude et d'apprendre à vivre avec sa solitude.
Et comment on gère les moments de blues dans le voyage? Parce que dans le voyage, en cours, on passe toujours par des moments de tristesse.
De tristesse, oui. Je crois que je les gère. J'ai vraiment remarqué que ces moments-là sont corrélés à mon état de fatigue. Ce que je disais tout à l'heure.
Vous allez dormir, quoi.
Globalement, je crois que c'est le meilleur remède, c'est d'aller se coucher. Ouais.
Bon, chers amis auditeurs, quand vous n'allez pas bien, allez vous coucher. Le conseil de Christophe Touchard, que l'on voyage ou non.
Oui, tout à fait.
Et à part ça, à part le sommeil?
À part le sommeil, sinon il y a la musique, évidemment, pour moi, qui fait partie des remèdes assez miraculeux. Et donc, je prends mon alto et je peux exprimer à ce moment-là des sentiments que je serais incapable d'exprimer, par exemple, par la parole. Et donc, ça me fait beaucoup de bien, ça m'apaise. Donc, c'est un moment avec moi-même. Et puis, je pense que le dernier élément, si je suis en voyage et au milieu de la nature, là, c'est de partir marcher. Et au milieu de paysages somptueux, et là forcément, tout d'un coup, tout va mieux.
Alors justement, la nature, l'apport de la nature tient une grande place dans votre livre et dans ce voyage. Vous avez reçu beaucoup de la nature, plus
énormément.
Que vous n'imaginiez, je pense.
Beaucoup plus. À chaque rencontre, ça a été des éléments marquants. Et j'ai fini au fur et à mesure de ce voyage par me dire, mais il n'y a pas tant d'intérêt que ça dans les villes. Alors, mis à part l'aspect culturel rencontre qui est extrêmement passionnant, mais j'ai eu tendance à rapidement fuir les villes pour toujours aller me réfugier dans la nature.
Et puis la nature au sens J'utilise le mot anglais, j'aime pas trop, mais wilderness, hein, comme disent les Anglais, là, c'est le côté sauvage de la nature,
exactement,
pas nos natures françaises qui sont finalement toujours touchées par la main de l'homme.
Exactement.
Là, on parlait vraiment le sauvage de la nature.
Le sauvage, qui a été d'ailleurs un choc au retour en France, parce que j'espérais retrouver dans mon imaginaire, j'avais cette vision de nature en France, et finalement j'ai eu énormément de mal à retrouver cette nature vierge. Et que j'ai trouvé en Patagonie en particulier, ou au Tibet, ou en Mongolie, même en Australie. Enfin, vous avez des paysages à perte de vue qui ne semblent plus jamais en finir sans aucune trace humaine. Et ces paysages-là m'habitent vraiment quand je les regarde. Et
la Patagonie vous habite vraiment. Hein.
Oui.
On sent que vous êtes tombé amoureux de la Patagonie.
Oui, mon cœur est resté là-bas, je crois.
Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire vers cette terre de feu? Sud du Chili, sud de l'Argentine.
C'est un mélange d'eau, de terre, parce que vous avez les fjords, de glace, de végétation verte et luxuriante côté chilien, de cascades, d'une faune composée de baleines, de phoques, de pétrels, d'albatros. Et vous avez l'impression tout d'un coup d'être au milieu de la nature vierge.
Et alors comment on revient de tout ça? Comment on atterrit au bout d'un an de voyage?
Difficilement. Très difficilement. Les premiers jours ont été extrêmement compliqués. Alors en plus, j'ai repris mon métier du jour au lendemain. Et donc, ça a été très très difficile.
Métro, boulot, dodo, quoi.
Exactement.
C'est le cas de le dire tout de
suite. Métro, boulot, dodo, tout de suite. Et donc finalement, j'ai mis, je pense, presque un an et demi avant de me remettre dans ce rythme-là. Et aujourd'hui, je crois que je ne l'ai pas complètement retrouvé.
Donc vous avez fait un choix de changer aussi.
De changer de vie, exactement.
De changer de vie professionnelle. Maintenant, vous êtes plus dans éveiller et espérer.
Alors oui.
Je dis ça, j'utilise ces mots parce que vous dites, si je devais tenter une adaptation à ma nouvelle vie, je crois que j'aurais envie de résumer par ces mots éveiller et espérer. C'est le fruit de cette année de voyage. Qu'est-ce que vous mettez derrière ces deux mots, éveiller et espérer?
Éveiller, c'est vraiment transmettre tout ce que j'ai vu, et en particulier les changements actuels. Donc c'est cette notion de sensibiliser, climatique, culturel et également géopolitique, parce que je pense qu'on n'en parle pas assez, mais il y a besoin aussi de comprendre le monde actuel. Et puis espérer, parce qu'on vit des changements qui sont quand même assez forts en ce moment, parfois qui sont pesants, on peut se dire que c'est assez dramatique dans le monde vers lequel on tend.
Et pourtant, vous avez de l'espoir.
Et pourtant, j'ai envie d'avoir de l'espoir, parce que sinon, ça ne sert à rien. Donc, il faut espérer et continuer à se battre.
Bien, merci beaucoup, Christophe Touchard. J'étais ravi de vous rencontrer en chair et en os, mais aussi de lire votre livre, parce que j'ai vraiment apprécié ce regard que vous avez posé sur ce voyage d'un an. Un alto pour passeport, une année autour du monde, un livre que vous avez publié aux éditions Favre.
Merci beaucoup Thierry Lyonnais, c'était un grand plaisir également.
Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, réalisation technique Philippe Faure.